suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir sur la 93.5 dans cette émission Club de la Presse. Les commissions permanentes, véritables piliers du fonctionnement de l'institution parlementaire, sont mises en place à l'Assemblée nationale. Elles jouent un rôle essentiel dans le processus législatif et le contrôle de l'action du gouvernement. Les 9 commissions ratifiées sont les suivantes. Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale, commission des droits de l'homme, commission des finances et du développement économique, commission agro-pastorale, de l'aménagement du territoire et du développement local, commission de l'éducation, de la communication et du développement socio-culturel, commission des relations extérieures et de la coopération, commission de la défense et de sécurité, commission de l'environnement et des changements climatiques, et puis commission de la santé, de la population, de l'action sociale. L'Assemblée nationale togolaise s'organise ainsi alors en mettant en place les 9 commissions pour son bon fonctionnement. Comment ces différentes commissions vont-elles travailler pour le bon fonctionnement alors de l'Assemblée nationale? Nous en parlerons dans cette émission avec mes confrères et invités alors en place, en studio avec moi. Et bien sûr, merci de nous choisir alors pour cette émission du Club de la Presse alors de ce vendredi 6 décembre 2024. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Koko, Vitokbe Tomega est à la mise en onde, Jérôme Akoucha sur la mise en ligne. Je suis Pascal Lousseau au micro. Comme toujours, vous nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires, Radio Lumière à Neho, Radio La Paix à Takpame, Central FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Vous avez aussi ce privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Mais n'oubliez pas, vous pouvez nous suivre aussi sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Le Bénin. En Club de la Presse, c'est avec des confrères journalistes en studio avec moi. Germain Poli, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous les auditeurs de Canal F.
J'espère que tu vas bien.
Je remercie Dieu, grâce à Dieu, ça va.
Grâce à Dieu, ça va. Ça fait toujours plaisir de vous avoir dans cette émission.
Oui, c'est un plaisir partagé. Merci surtout pour l'invitation.
Merci à toi. Firmin Teko Agbo, bonjour.
Bonjour Pascal Lousseau, merci de m'avoir invité.
J'espère que tu vas bien.
Ouais, nous allons bien. Nous allons bien par la grâce de Dieu. C'est sa grâce qui nous a encore réveillés ce matin. C'est sa grâce qui nous permet d'être ici. C'est sa grâce qui nous permet d'être un peu utile à notre société.
Tout à fait.
Parce que moi, je dis que quelqu'un, tout le monde, chacun a en lui quelque chose de divin. Peut-être c'est ce divin-là, ce quelque chose de divin que nous sommes venus encore exprimer ce matin. Alors nous demandons à ce que Dieu nous permette, à ce qu'il nous a donné, nous puissions le mettre à la disposition de tous ceux-là qui vont nous écouter. Et c'est l'occasion aussi de dire à tous ceux qui nous écoutent que c'est la démocratie. Nous ne sommes pas venus pour frustrer les gens, nous ne sommes pas venus pour rendre des gens tristes. Nous sommes venus juste pour faire un devoir, pour accomplir un devoir républicain. Donc c'est la démocratie. Nous avons un dénominateur commun, que le Togo se porte bien. Que le Togo se porte bien. Et donc ceux-là qui nous écoutent, ils voudraient que le Togo se porte bien. Moi aussi, je voudrais que le Togo se porte bien. Mais la voie par laquelle nous devons passer, personne ne maîtrise cette voie. Donc c'est pour cela que la démocratie nous permet d'enrichir nos divergences. Et à la fin de la journée, Dieu nous permettra de trouver la meilleure voie.
C'est l'essentiel. À la fin de la journée, Dieu nous permettra de trouver la meilleure voie. Et surtout, il semble que c'est dans la diversité des réflexions que jaillissent souvent la vérité. Et donc là, nous constituons d'abord un plateau où nous avons la diversité alors des opinions, puisque nous prenons en compte même d'ailleurs l'opinion des uns et des autres, et surtout ceux qui sont à la maison, puisque déjà à partir de midi, nous leur donnons la parole de s'exprimer aussi. C'est aussi ça la démocratie.
C'est ça que vous parlez de la démocratie. Vous savez, l'article 2 de la nouvelle constitution, la question du 6 mai, parle de la démocratie. Et l'article 2 précise exactement que le mode de fonctionnement du Togo, c'est le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. Et partant de là, comme chaque semaine nous sortons des visuels, nous sommes intéressés cette semaine à l'article 40 de la constitution du 6 mai 2024 qui dispose que le président de la République est le chef de l'État. Il est le garant de l'unité nationale. Alors nous allons répéter ce que nous avons l'habitude de répéter depuis quelques mois, que en réalité ce que nous voudrions, c'est que d'ici mai, que toutes les institutions se mettent en place, bientôt bien sûr, peut-être on va parler des sénatoriales qui vont être organisées le 2 février prochain, mais non, notre ambition, notre objectif, c'est d'accompagner, au niveau du sens, c'est d'accompagner l'État à tout mettre en œuvre pour que tout se passe bien, parce que nous avons moins de 5 mois, moins de 5 mois pour mettre en place toutes ces institutions. Il faut mettre en place la nouvelle Cour constitutionnelle, parce que quand vous parlez de la nouvelle Cour constitutionnelle, il y a deux membres de cette Cour constitutionnelle qui seront désignés par le président du Conseil. Il y a la haute autorité de la communication écrite, audiovisuelle et du numérique. Il y a le Conseil d'État qu'il faudra mettre en place. Il y a le protecteur du citoyen qu'il faudra mettre en place. Il y a la nouvelle APRUCEA qu'il faudra mettre en place. Il y a le Conseil économique, social et environnemental qu'il faudra mettre en place. Il y a le Sénat qu'il faudra mettre en place. Donc, les deux tiers des sénateurs seront élus par les collectivités territoriales. Un tiers sera nommé par le président de la République. Et après, il y aura le président de la République qui devra aussi s'installer. Donc, nous voudrons que tout se passe bien. Et aussi, il y a une ambition que nous nourrissons au niveau du centre, c'est que cette nouvelle constitution, que ça ne reste pas là de façon tangible ou intouchable, que régulièrement que des réflexions se mènent pour qu'on puisse véritablement l'adapter à nos réalités. Parce que quand vous voyez certains de pays qui nous entourent, quand vous voyez la Côte d'Ivoire par exemple, la Côte d'Ivoire a quitté le régime présidentiel français. Parce qu'au départ, c'était le régime français qu'ils ont copié. Maintenant, au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a un mélange de régime présidentiel et régime semi-présidentiel. Parce que quand on parle de régime présidentiel, il faut le président de la République et le vice-président. Et maintenant, régime semi-présidentiel, il faut le président de la République et le premier ministre. La Côte d'Ivoire a pris les deux. Au niveau de la Côte d'Ivoire, vous avez le président de la République et vous avez le premier ministre. Vous avez le président de la République et vous avez le vice-président. Donc, il y a un mélange de tout. Au niveau de Dakar, Macky Sall a modifié la constitution en 2019. Et on ne sait même pas de quel régime il s'agit, parce qu'il n'y a même pas le poste de premier ministre. Il n'y a même pas le poste de vice-président. Il a pris une constitution comme ça. Il s'est érigé une constitution comme ça. Et avec le temps, il s'est rendu compte qu'il lui fallait un premier ministre. C'est pour cela que, abstraction faite de toute disposition juridique, il a nommé Amadou Ba. Il a nommé Amadou Ba. Donc, tout le monde essaie d'adapter ces tests à leur réalité. Le Togo aussi a choisi donc cette voie. Donc, il faut que ceux qui nous dirigent arrivent à assumer et arrivent à adapter notre régime parlementaire au contexte politique ou aux réalités togolaises.
D'accord, ok. Merci, Firmin. Gabin Adjaro, bonjour.
Bonjour, cher Pascal. Merci pour l'invitation.
J'espère que tu vas bien.
Oui, on rengraisse lentement mais sûrement. On est en train de finir la semaine. On va juste rendre grâce à Dieu pour ça. Pour la vie des auditrices et auditeurs aussi, et surtout pour ta vie, toi qui modères quand même cette émission, il faut avoir la poigne pour tenir face à des gens qui ont la gueule un peu dure. Donc, toutes mes félicitations et surtout, mes félicitations aux techniciens aussi qui abattent un bon travail.
Merci beaucoup, Gabin, et merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, Germain, je suis intéressé par ce sujet que je trouve à la une alors du journal Imagine Demain. C'est par rapport surtout à la citoyenneté. Et le journal titre focus, l'Institut Tabermin valorise les citoyens modèles. J'ai envie de vous poser la question de savoir, c'est qui aujourd'hui le citoyen modèle?
Un citoyen modèle, c'est celui qui a déjà sa place dans notre société et essaie de contribuer donc au développement, à la quiétude, à la solidarité, qui participe à la promotion de certaines valeurs donc dans nos sociétés. Un citoyen modèle, c'est celui qui est respectueux des lois et aussi des bonnes mœurs. C'est celui-là qui respecte aussi ces règles qui ne sont pas écrites et qui facilite le fait de bien vivre ensemble. Maintenant, est-ce qu'il y a un type de citoyen modèle, je ne pense pas, mais il y en a qui font beaucoup d'efforts pour jouer leur partition dans la société, qui les voit évoluer, qui ne pensent pas seulement à eux, mais qui pensent à leur communauté. Et à mon avis, donc, ce sont des personnes encouragées, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Le fait est que de plus en plus, les gens pensent à eux-mêmes d'abord, avant les autres. Ils mettent leurs intérêts en avant, avant ceux des autres, ceux de la communauté, ceux de la société, ceux du pays. Et donc, ça fait que un bon citoyen, c'est de plus en plus rare, et je pense que cette organisation fait bien de faire la promotion de la citoyenneté, donc de promouvoir ces personnes-là qui consacrent leur temps, leur énergie et parfois leurs moyens, hein, donc au service de nos sociétés, de nos communautés.
D'accord. Firmin, est-ce que aujourd'hui, on connaît l'Institut Taberma qui est dirigé par Paul Amegakpo et que nous saluons au passage. Alors, quand on prend cette question de valorisation du citoyen modèle, aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que nous avons vraiment un citoyen modèle?
Non, et vous partez de cette définition de la citoyenneté. La citoyenneté rassemble trois valeurs. Il y a le civisme, la civilité et la solidarité. Et c'est ça, la citoyenneté. Donc, quand vous êtes un citoyen, ça veut dire que vous respectez le civisme, c'est la soumission aux règles de la République. La civilité, c'est le respect des valeurs morales, la tolérance, et ainsi de suite. Et la solidarité, ça veut dire que vous êtes solidaire des autres. C'est-à-dire, vous avez un peu et vous partagez. La solidarité, c'est une valeur obligatoire. Ce n'est pas, si vous donnez à quelqu'un, ce n'est pas que la personne vous doit quémander. C'est une valeur citoyenne. Alors, si vous êtes un citoyen, et vous vous dites citoyen, bien sûr, et que vous ne respectez pas ces valeurs, vous n'êtes pas un citoyen modèle. Vous n'êtes pas un citoyen. Moi, je dis, je m'arrête juste au thème citoyen. Un citoyen, c'est celui qui respecte ces valeurs-là. Quand vous respectez ces valeurs, c'est ça. Par exemple, quand vous êtes peut-être à un poste et que vous n'aidez pas les autres, vous n'êtes pas un citoyen modèle. Vous n'êtes pas un citoyen modèle non plus. Quand vous êtes peut-être, vous êtes un ministre, vous êtes un délégué de société, vous ne respectez pas, vous ne respectez pas les valeurs de la République, les règles de la République, les principes républicains, vous n'êtes pas un citoyen. Quand vous êtes ici, nous qui sommes ici, par exemple, vous conduisez votre moto, vous conduisez votre voiture, vous ne respectez pas les règles contraventionnelles. Parlant de règles contraventionnelles, c'est respecter la police, respecter le feu tricolore. Vous n'êtes pas un citoyen, vous n'êtes pas un bon citoyen. Quand vous avez de la haine contre vos prochains et tout ça, là, vous prenez la violence, vous n'êtes pas un citoyen. Donc, ça rassemble un certain nombre de choses. Vous savez, les Occidentaux nous ont dépassés avec deux choses. Ils ont construit leur société sur la citoyenneté et sur le patriotisme, c'est tout. Les Chinois, ils ont construit leur société sur ces deux valeurs fondamentales. C'est ce qui nous manque. Et ce qui fait qu'on n'arrive pas à décoller fondamentalement.
Il y a aussi le respect de la loi qu'on s'est donnée.
Mm-hmm. Oui, c'est ça, en fait. C'est ça, le civisme. Le respect de la loi qu'on s'est donnée. On se dit, oui, c'est un contrat. Par exemple, quand vous voyez la Constitution, c'est un contrat social. Tout le monde se doit de respecter la Constitution. Mais est-ce que tout le monde respecte la Constitution? C'est la question qu'on se pose fondamentalement. Si vous ne respectez pas ça, non. Et si vous êtes un citoyen et vous vendez les secrets de votre République à d'autres, ça veut dire que vous n'êtes pas un citoyen. Vous ne protégez pas la République. Si vous êtes un citoyen, vous dites citoyen, et vous peignez en noir votre pays à l'international, vous n'êtes pas un citoyen. Parce qu'on a connu des défenseurs des droits de l'homme qui sont allés aux Nations Unies qui ont peint un pays en noir. Ce ne sont pas des citoyens. Vous n'allez jamais... Vous savez, je rencontre des Français ici.
Ils sont des citoyens, mais pas de bons citoyens.
quand vous dites perdre en noir, est-ce que ce n'est pas aussi être objectif sur ce qui se passe dans son pays?
Non, il y a une manière de le dire. Il y a aussi une manière. Il y a des gens qui veulent montrer aux autres que leur pays est mauvais. Par exemple, quand vous voyez un peu ce qui s'est passé en 2017-2018, regardez la manière dont la diaspora s'est mobilisée. Mais le fait que la diaspora conteste le pouvoir, nous aussi nous contestons le pouvoir, nous critiquons le pouvoir. Mais le fait que la diaspora conteste une manière de faire, c'est une manière d'appeler à la violence, c'est une manière de peindre en noir son pays. Mais regardez la diaspora ghanéenne, regardez la diaspora des autres pays. Vous allez voir ce qu'on a les mêmes comportements. C'est là où vous vous rendez compte qu'en réalité, il y a un problème. Pour conclure, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que ce sont des citoyens, que ce soit sur le plan international, que ce soit sur le plan interne. Vous voyez par exemple ce qui se passe au niveau de Gaza. Chaque fois, on parle de couleur humanitaire. Chaque fois, il faut mobiliser des ressources matérielles, nourriture, tout, pour envoyer vers ceux-là qui sont en train de souffrir de guerres, de balles et tout ça. Vous savez, c'est au nom de la solidarité internationale. C'est ça la citoyenneté internationale.
D'accord.
Si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas des citoyens.
D'accord. Alors, Gabin, c'est vrai que nous observons une crise de citoyenneté ces derniers temps. Quand vous rentrez même dans la circulation, vous allez trouver cela parce que ça saute aux yeux. Alors, la question de savoir est comment est-ce que nous sommes arrivés là et qu'est-ce que nous devons faire concrètement aujourd'hui pour être un citoyen et jusqu'à chercher même à être aussi un citoyen modèle.
C'est que malheureusement, on est en train de perdre nos valeurs petit à petit. Et aujourd'hui, ce qu'on ne faisait pas avant, bon, aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante. Aujourd'hui, dans nos circulations, quand tu constates que, bon, il y a quelqu'un qui a peut-être mal conduit et que, bon, tu le lui reproches, au lieu hein, de prendre cela en considération, il préfère t'insulter. Vous voyez des vieux pères dans la rue, des mamans qui s'insultent et tout.
Le Togolais n'était pas comme ça.
Le Togolais n'était pas comme ça. On en est arrivé là tout simplement parce qu'il y a une culture de l'individualisme aujourd'hui. Et surtout, chacun se cherche, chacun se dit, bon, je vais chercher pour moi, la vie de l'autre ne me concerne pas. Alors que si je fais bien et que l'autre aussi en profite, ça en va dans mon avantage. Donc la plupart du temps, c'est qu'on est en train de perdre notre sens de communautarisme pour privilégier l'individualisme. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous aurez pu constater que même dans nos quartiers, les gens ne balaient plus hein, la devanture, alors qu'avant, même les gens choisissent un samedi pour pouvoir arriver à rendre propre le quartier. Et ça... ça ne venait pas du chef du quartier, hein. C'est juste quelqu'un qui appelle les gens comme ça, bon, mobilisons-nous pour rendre propre notre quartier. Mais aujourd'hui, ça ne se fait pas, chacun s'occupe juste de sa maison, peut-être une petite partie hein, de sa devanture, ou bien ils disent que bon, l'État m'a donné un mètre pour la devanture, donc ils s'occupent juste de ces un mètre-là, et puis bon, ils laissent les autres, si quelque chose arrive, bon, c'est pas son affaire. Donc, à un moment donné, je pense que nous devons cultiver hein, cette citoyenneté modèle-là dont Germain est en train de parler. C'est très important d'arriver quand même à servir sa communauté. Quand on arrive dans un quartier, qu'on sache que, bon, voilà, dans ce quartier, au moins, il y a quelqu'un de référence. Et les enfants qui grandissent voient cette référence-là. Nous, en notre temps, c'est vrai qu'on ne connaissait pas les gens de visu. On n'a jamais eu à voir M. Barry Moussa Barké, les maîtres d'église, la Gouibor, on ne les a jamais rencontrés. Ce sont des gens que moi, j'ai rencontrés quand j'ai beaucoup plus grandi. Mais ces personnes-là nous servaient de modèle. Et jusqu'à on disait que, bon, faites comme Barké. Donc, côté scolaire, on se basait sur ça pour dire que bon, nous aussi, on veut devenir comme tel. Moi aussi, je voulais devenir comme M. Kwasi Kloutcher, qui a fait de brillantes études. Je veux devenir comme M. Barry Moussa Barké, comme un certain M. Fabre, ou bien Gilles-Christ Olympio, grand économiste, comme M. Faure, grand économiste. C'est ce qui faisait nos valeurs. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Donc, on doit revenir à nos bases. On est en train de perdre aussi la culture, parce que nos cultures, c'est la solidarité. Quand quelque chose arrive dans la maison d'à côté, sache que c'est à toi que ça arrive et tu constitues le premier soutien de cette maisonnée-là. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Chacun s'occupe de ses propres affaires. Il y a des décès à côté. Bon, tu vas, tu salues les gens et puis tu repars. Alors qu'avant, ce n'était pas la même chose. Le voisin d'à côté peut même éduquer ton enfant en ton absence. Et quand tu reviens, ben, tu peux encore réprimander ton enfant. Mais aujourd'hui, il suffit juste que le voisin touche à ton enfant, mais vous vous retrouvez devant la police. Donc, je pense que nous devons retourner à nos vraies valeurs pour aider à ce que nous construisions une bonne société.
Oui, c'est vrai que Gabin évoquait le fait qu'aujourd'hui, c'est comme si nous n'avons plus de références. Parce que auparavant, il y a des gens quand même qui constituaient nos références, nos modèles. On se dit, mais oui, on veut ressembler à telle personne. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de références en tant que telles. Est-ce que ce n'est pas mauvais? Ou ce n'est pas grave, même d'ailleurs, pour la jeunesse que nous constituons.
Oui, c'est très grave. C'est vrai que tout à l'heure, quand Firmin parlait, il donnait l'impression que les Occidentaux avaient réussi parce qu'ils étaient plus citoyens. Non, je ne crois pas. Gabin parlait de la solidarité africaine. Hein, parce que ça, il y avait ça chez nous, hein, depuis nos ancêtres, nos aïeux. Et comme le disait Gabin, j'ai eu l'occasion de rencontrer un ministre de ce pays une fois dans une maison mortuaire. Il disait que à leur époque, dans un petit village au nord, c'est toute la communauté qui éduquait tous les enfants. C'est-à-dire que quand on donne les résultats à l'époque, vous êtes au cours primaire, quand vous passez, c'est un parent qui vous appelle. C'est comment le résultat? Est-ce que vous avez réussi? Quand vous dites non, ce parent-là même vous tape, d'abord il vous frappe, avant même que vous n'arriviez à la maison. Ben, vous étiez où quand les autres qui ont réussi? Et donc, quand un enfant fait une bêtise, c'est toute la communauté qui l'éduquait. Et aujourd'hui, c'est autre chose. C'est vrai, on dit, bon, il ne faut pas frapper les enfants. On a pris ça comme le droit des enfants. Oui. Vous voyez quel type d'enfants aujourd'hui on fabrique. Vous voyez quelles difficultés ont certains enseignants. C'est vrai qu'il y en a qui ont abusé jusqu'à ce que des séquelles, il y a eu des séquelles sur les enfants et tout ça, même à la maison. Mais après, et aujourd'hui, c'est chacun dans son coin. Et il y a aussi un phénomène, c'est la démocratie et la liberté aussi qui sont passés par là. Et vous allez voir que l'anarchie, un certain nombre d'actes, ont commencé par prendre corps dans nos pays à partir des années 90. Oh, c'est vrai qu'on avait des dictateurs dans nos pays, il fallait plus de démocratie, mais après, il n'y avait plus d'ordre parce que les gens n'avaient que des droits, ils n'ont plus de devoirs. Tout le monde revendique des droits, mais personne ne se dit, voilà mon devoir envers la société, voilà mon devoir avec ma communauté, et mon pays et tout ça. Donc ça continue jusqu'à aujourd'hui et avec aujourd'hui la démocratisation de la connaissance. Nous nous sommes fait envahir par les modèles des Occidentaux où aujourd'hui on ne respecte plus rien là-bas. Vous voyez comment les enfants traitent leurs parents là-bas. Nos frères qui vivent en Europe, tu frappes ton enfant, tu risques qu'on te rapatrie.
Ils ne sont pas des modèles.
Dans son pays. Et donc, c'est très compliqué. Maintenant, le modèle, c'est que chacun, il n'y a plus d'humilité. Tout le monde croit qu'il connaît. Tout le monde croit qu'il est important, tout le monde. Donc, on ne respecte plus vraiment les valeurs, les exemples. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, parce que l'effort n'est pas promu. Il n'y a pas une grande promotion de l'effort. Vous allez voir tous les jeunes aujourd'hui, ils cherchent un moyen rapide pour gagner de l'argent sans trop travailler. Parce qu'on croit qu'il y a des modèles pour travailler, pour gagner beaucoup. Les gens sont convaincus, par exemple, de ça. Donc, il n'y a pas la promotion de l'effort. On n'a pas besoin de travailler un peu. Il faut être dans un bon créneau. Oh, tu ne fais pas grand-chose, mais tu gagnes beaucoup. Et on pense qu'il y a des créneaux comme ça qui existent. Et quand la société est orientée vers ce genre de modèle, c'est fini. Mais aujourd'hui, vous allez voir que même certains gangsters, par exemple, sont admirés. Mm-hmm. Prenez même le fait Balthazar.
Oui.
Mais ce Balthazar est une superstar. Si vous prenez le monde entier, la majorité l'apprécie. Il n'y a qu'une petite minorité qui le condamne. La majorité. Et dans tous les pays, dans tous les pays, Balthazar est devenu une célébrité.
Et dans ça,
les gens ont envie de faire comme Balthazar. Parce qu'il est devenu une superstar. Il a adulé par des femmes. Il a adulé par des hommes qui rêvent de faire comme lui. Et donc, il y a une minorité qui le condamne, mais la majorité des gens le félicitent, ont envie, le respectent d'ailleurs. Et je vous dis que s'il arrivait demain, vous allez ici à Lomé, par exemple, vous allez voir combien de personnes iront l'accueillir, que ce soit à Avignon ou partout. Le gars est devenu une superstar. J'écoutais une chanson sur les réseaux sociaux la dernière fois. Il y avait une fille phénoménale qui avait une voix pas possible, qui a fait une très belle chanson pour Balthazar. J'en revenais pas.
C'est ce qu'il me dit. Il est une célébrité telle que
vous voyez le genre de modèle.
Oui.
Et demain, ce gars sortira de prison. Peut-être qu'il va trouver un rôle dans un film hollywoodien de pornographie où il va se faire des millions. Et les gens se diront, mais voilà, on nous fatigue d'aller à l'école, on nous fatigue de chercher à travailler, mais si tu peux faire comme Balthazar, tu t'enrichis, tu vois, un peu. Donc, l'effort n'est plus promu et les gens sont convaincus qu'il y a des raccourcis, qu'il y a d'autres modèles pour réussir sur le plan social. Et donc, la réussite traditionnelle, les gens qui étaient brillants à l'école, les gens qui étaient brillants dans leur métier, même des commerçants, même des artisans, tout ça. Allez dans les ateliers aujourd'hui, les patrons artisans vous diront que les jeunes ne veulent plus apprendre. Il y a un problème d'apprenti dans les ateliers. Même dans des métiers porteurs, non, les jeunes sont convaincus qu'on peut peut-être passer par les crypto-monnaies, par le trading, par un certain nombre de trucs rapides. Et puis, il y a eu ces influenceurs-là aussi sur les réseaux sociaux qui ont eu un effet très néfaste parce qu'aujourd'hui, la réalité est là. Les réseaux sociaux dominent l'information. Les réseaux sociaux ont dépassé les médias traditionnels dans la diffusion les traitements, malheureusement, un triste traitement de l'information. Et aujourd'hui, tout ça influence et que notre continent, qui s'approprie un peu tout cela, donc, a perdu plusieurs valeurs. Et ça va être très difficile aujourd'hui à voir l'évolution du monde quand on revient en arrière.
D'accord. Alors, Firmin, c'est vrai que Germain lui disait dans sa suite que ça va être très difficile qu'on revienne en arrière. Mais aujourd'hui, la responsabilité doit être à qui ?
Oui, mais la première responsabilité incombe à l'État. J'aimais parler tout à l'heure brillamment de la démocratie, de la démocratisation. La démocratie, la mauvaise compréhension de la démocratie ne nous a pas véritablement aidé, parce qu'au début des années 90, si on avait insisté véritablement sur la démocratie, la promotion de ces valeurs citoyennes, je pense qu'on ne serait pas ici aujourd'hui. Et à ce niveau, peut-être l'État un peu lâché. L'État un peu lâché, peut-être à l'époque, on avait un peu peur, tout ça, là. Donc, l'État n'a pas véritablement accompagné, surtout par rapport à la mise en place des structures qui devraient permettre à ce que les valeurs citoyennes soient promues dans la société. Par exemple, au niveau de nos écoles, cela a lâché complètement. C'est ça aujourd'hui. C'est maintenant que cela est en train de revenir, alors que la population est en train d'accroître. Et c'est là où c'est et aussi, les ressources sont rentrées par là. Avant, il n'y avait pas assez d'ouverture comme cela. Donc, on pouvait cadrer, on pouvait coincer les gens. Par exemple, on dit, vous allez à l'école, et maintenant, il y a des choses qu'on vous enseigne. Maintenant, ici, aujourd'hui, il y a les ressources qui vous enseignent autre chose. Mais il faut que l'État revoie un peu sa formation civique dans les écoles, sur les réseaux sociaux et tout ça. Moi, j'ai accompagné une fois la direction de la formation civique au Nord. Il faut un travail extraordinaire dans les écoles. Mais ça ne suffit pas. Il faut l'étendre aux réseaux sociaux. Comme nous le faisons un peu au niveau de notre centre, tout ça là. Bon, nous, on a juste besoin d'appui pour promouvoir des valeurs citoyennes. Pour que les gens, les jeunes, quand ils défient leur groupe WhatsApp, qu'ils trouvent des valeurs, de petites valeurs. Tu n'insulteras pas, tu respecteras ton père et ta mère, par exemple. Tu respecteras ton aîné. Tu respecteras les lois de la République. Lorsque le feu rouge s'affiche, alors tu dois t'arrêter. De petits trucs comme ça, ça travaille l'esprit humain. L'homme aussi bandit soit-il, il y a des choses qui l'influencent. Donc il faut que l'État revoie un peu sa formation civique au niveau des écoles, au niveau de toutes les structures, au niveau des réseaux sociaux. Maintenant, la deuxième chose que je voudrais faire observer, vous pouvez parler brillamment des références. Vous savez, quand on était petit, bon, il y avait des journalistes qu'on adulait. Il y avait le Kwesi Mwuvidi.
Oui.
Ouais, il y avait les Kofi Panou, les Amévi Dabla et tout ça. Mais au niveau des politiciens même, il a parlé de Jean Dégli. Moi, j'ai connu Jean Dégli en 2011 devant la CVJR. Moi, j'ai été impressionné par sa communication, vous imaginez. J'ai toujours ça, quoi, parce que c'était pour moi une première fois de voir quelqu'un comme ça. On parlait de Dégli, mais c'était brillant, en fait. Il y avait les Agbibo, il y avait les Edem Kodjo, il y avait les Gachem Itvedo, il y avait les Barké. Aujourd'hui, on a qui? C'est la question qu'on
la question se pose.
On a les influenceurs.
Ça veut dire qu'on a tout aujourd'hui. Ça veut dire qu'en réalité, regardez dans le gouvernement. Moi, je viens même au niveau du gouvernement. Tous les gouvernements qui se succèdent, qui sont nos repères aujourd'hui, nos références? Si vous voulez apprendre la politique aujourd'hui, vous pouvez aller sur YouTube pour taper peut-être un ministre togolais pour voir ça, la manière de présenter son discours, la manière de faire son chiffre, sa campagne. Non! Vous allez sur YouTube, vous allez voir comment Donald Trump le fait, ou comment Harris le fait, ouais. Vous allez voir comment Emmanuel Macron le fait, ou Sarkozy l'a fait de pas son passé, ou Hollande l'a fait. Mais il n'y a pas ça. Ça n'aide pas la jeunesse. Il faut que mon ministre s'exprime, il faut qu'il y ait des débats. Il faut que peut-être il y ait un ministre Kokoroko et en face Jean-Pierre Fabre. Il faut que peut-être d'une manière ou d'une autre il y ait Adjamagbo et de l'autre côté il y a peut-être un Christian Primo. Donc, il faut qu'il y ait des débats comme ça. Et là, ça impressionne la jeunesse. Ça forme la jeunesse. Et maintenant, on se les débats avec un petit calepin, avec des petites expressions.
Oui.
Donc, s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas de discours, on n'a pas de repère, on n'a pas de référence. On va se perdre. Regardez pas, hier, moi, j'ai passé la journée dans mon bureau toute la matinée à suivre des documentaires au niveau des États-Unis, au niveau de la France, avec ce qui est en train de se passer. Peut-être qu'on en parlait tout à l'heure. Pour voir un peu comment ça se passe. Mais ici, au Togo, on manque de ces choses. Parce que ce que Léa Gbouibo avait fait, vous ne trouvez pas ça sur YouTube.
D'accord. Oui, mais d'abord, aujourd'hui, la question de savoir à quelle cible devons-nous attaquer, c'est-à-dire pour faire ce travail de citoyenneté, aujourd'hui, on doit prendre quelle cible pour commencer?
Oui, vous savez, c'est à plusieurs niveaux. C'est à plusieurs niveaux. C'est le lieu quand même de tirer chapeau à l'ancien ministre, M. Gilbert Humbo, qui avait quand même permis aux médias, à travers la communication, de promouvoir la citoyenneté, le civisme et autres. Là. Depuis lors, après lui, c'était M. Aoumezoulou qui était venu, c'était lui qui a banni quand même ce programme-là de lois de finances, et ça n'existait plus. Or, ça aidait beaucoup. Ça aide beaucoup. Donc aujourd'hui, quand même, certains médias continuent par faire la promotion, mais il n'y a plus véritablement d'engouement à ce niveau-là. Maintenant, vous savez, la société, la plus petite cellule, c'est la famille. Tout commence par la famille. Et chaque famille a une certaine direction. Ce que je constate auprès des parents de nos jours, surtout les parents des années 90 et autres là qui enfantent les enfants aujourd'hui, il y a un laisser-aller de la part de ses parents. C'est parce que je donne tout à mon enfant que j'aime beaucoup plus mon enfant. À un moment donné, il y a des choses qu'on ne donne pas à un enfant. Vous voyez, et moi je me rappelle très bien mes petits-neveux et mes nièces. Mon grand frère leur avait refusé le portable. Jusqu'à ce qu'ils obtiennent leur bac. Et ils ne s'en sont jamais plaints. Ils aimaient beaucoup plus ça. C'était des enfants, c'était des génies. Hein. Ils sont des génies pratiquement. Bon, aujourd'hui, ils sont en France, ils sont en train de continuer leurs études. Et à un moment donné, le grand frère s'était révolté en classe de première. Parce que bon, il fréquentait quand même des écoles prestigieuses. Il se disait, bon, moi je veux un tel portable parce que bon, mes camarades de classe et tout ça ont dit non. Si tu finis les cours beaucoup plus vite, tu vas chez ton censeur, qu'il t'appelle le chauffeur, il viendra vous chercher. Mais il n'aimait plus ça. À un moment donné, je suis assis, je l'ai appelé. Bon, tes amis là, ils font quoi avec le portable? Il n'arrivait pas à le dire. Mais à la maison, tu as ton ordinateur, tu peux faire des recherches. L'ordinateur, c'est à une place ouverte. Leur maman peut les surveiller. Donc, tu ne peux pas amener même ton ordinateur dans la chambre. Au fait, chaque parent arrive à déterminer ce qu'il veut de sa famille. Si tu veux construire des démons, c'est ton problème. Mais à un moment donné, il faut savoir interdire certaines choses aux enfants. Ça, là, tu ne peux pas le faire. Ton âge, ce n'est pas possible. Mais aujourd'hui, on donne tout aux enfants. On achète même des pistolets aux enfants. Mais qu'est-ce qu'on leur montre? On insulte devant les enfants. Les parents nouveaux modèles, là, surtout les jeunes dames, elles dansent, elles remuent les fesses.
Vous voulez voir la caméra? Vous voulez parler des nouveaux parents?
Des nouveaux parents, bon, je suis pas un nouveau modèle. Elle remue les fesses devant la caméra, devant les enfants. Parfois même les enfants fredonnent des chansons obscènes et ça ne dit mot aux parents. Donc à un moment donné, les parents même doivent se conscientiser. Je me dis, il y a des enfants qui sont en train de faire des enfants. Parce que être parent, premièrement, c'est dans la tête. C'est une vision. Est-ce que les parents ont réellement une vision pour leurs enfants, pour leur famille? Ce qui fait que dans certaines familles aujourd'hui, il n'y a même pas de soutien, il n'y a pas de solidarité. Parce que c'est chacun pour soi. Parce que les parents leur ont inclus ça. Alors qu'avant nous, si quelque chose arrive à ton frère, c'est à toi que directement ça arrive. Mmh. Et tu te dois de lui apporter du soutien. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Maintenant, au niveau beaucoup plus élevé, au niveau de l'administration. Quand tu rentres dans l'administration, quand tu rentres dans un service public, il faut voir comment les gens accueillent les usagers. C'est avec mépris. Comme si ce n'est pas grâce à ces usagers-là qu'ils sont payés. Ils se voient supérieurs aux usagers. Les secrétaires qui manquent du respect aux usagers des services publics, même dans les entreprises privées, parapubliques, du manque du respect, alors que le DG lui-même, il est très respectueux. Mais les subalternes sont irrespectueux. Donc, à un moment donné, je pense que nous devons poser le débat. C'est un grand débat, hein, c'est un grand titre que M. Germain a écrit là. Donc, je pense qu'on doit aborder le sujet sur...
C'est un grand débat, on va revenir là-dessus. En fait, c'est le journal Imagine Demain, plutôt, qui a écrit le sujet, qui est en train alors de faire le débat en studio. Alors, je voudrais qu'on s'intéresse à la loi de finances, parce qu'il y a beaucoup de journaux également qui sont revenus sur la loi de finances 2025, exercice bien sûr 2025. Et vous savez très bien que pour cette année, enfin pour l'année 2025, la loi de finances ou le budget s'élève à 2 394,2 milliards de francs CFA, ce qui fait une différence de 9,9%, une augmentation, j'allais dire, de 9,9% par rapport à cette année 2024. Il y a le journal L'Union pour la Patrie qui est revenu sur le sujet. L'Union pour la Patrie qui écrit « Projet de loi de finances exercice 2025, éducation, santé, armée, les plus gros budgets ». Autre journal qui revient aussi sur le sujet, c'est le journal Imagine Demain. Le journal écrit « Politique, le gouvernement adopte le projet de budget 2025 en hausse de 9,9% par rapport à 2024 ». Le journal Le Temps Nouveau aussi est revenu sur le sujet et le journal écrit « Exécution du budget 2025, le MPDD recommande des mécanismes robustes de suivi et d'audit ». Alors Javin, quand on suit ces journaux, notamment quand on prend le dernier titre que je viens de lire, on se dit, mais aujourd'hui, quand on prend le budget, il y a la grande partie qui est réservée à la santé, l'éducation et aussi la sécurité. Mais après tout, on se pose la question de savoir à quelle fin et aussi quel sera le suivi et aussi l'évaluation qui sera faite.
Oui, non, je crois que c'est un budget qui est très porté sur le social. En parlant de la santé, en parlant d'éducation et puis sur la sécurité. Vous savez que nos pays sont très menacés et aujourd'hui la tendance en Afrique de l'Ouest par rapport aux attaques terroristes de renforcer nos systèmes de défense. Donc il y a des lois de programmation militaire qui ont fait augmenter le budget dans ce domaine. Et le budget de l'éducation, qui est l'un des meilleurs dans la sous-région, qui tournait autour de 30% il y a quelques années, 28-29%, a été augmenté parce que, comme on en parlait tout à l'heure, quand on parlait du civisme, de la citoyenneté, c'est l'éducation, quels sont les types de citoyens qu'on va former pour demain, ça passe par l'éducation, il faut pouvoir les former et leur doter de moyens et d'outils pour pouvoir prendre leur place et jouer leur rôle dans nos sociétés pour des profils adaptés selon les besoins et les professions donc dont ont besoin nos pays. Et puis la santé, on le sait, avec l'avènement de l'assurance maladie universelle, et il faut faire en sorte que tout le monde profite de cette assurance-là, même ceux qui n'ont pas une grande capacité contributive, donc ceux qui ne peuvent pas apporter beaucoup pour être soigné. Il faut, l'État a mis en place un fonds donc qui va permettre aussi de pouvoir soigner même ceux qui ne pourront pas contribuer parce qu'ils n'ont pas les moyens donc de le faire. Donc quand on prend ces priorités là, on comprend que ce budget là est porté sur le social et la sécurité. Ce sont les besoins du moment. C'est vrai que entre-temps le budget était plus porté sur l'inclusion financière, sur la promotion de l'emploi des jeunes.
Et ça aussi c'est du social.
Oui, et c'est en ce moment que le terrorisme est venu. En fait, certains disent que les Occidentaux ont créé ça pour freiner l'élan de développement de nos pays, parce qu'on oblige nos pays à mettre de l'argent, beaucoup plus d'argent pour se défendre que pour se développer. C'est un peu la situation dans laquelle se trouvent la plupart de nos pays. Maintenant, nous avons la chance que nous sommes dans la 5e République avec un Parlement qui a plus de force que dans la précédente République, donc avec dans un régime parlementaire où les députés ont un droit de regard plus poussé, ont beaucoup plus d'influence sur le gouvernement, peut les interpeller, peut même les démettre aussi, peut provoquer donc le renversement du gouvernement. On espère que ces députés-là vont jouer pleinement leur rôle parce que ce sont eux les représentants du peuple, et quand le gouvernement annonce qu'on veut faire ça pour la population, quand ils approuvent ce budget, quand ils vont adopter ce budget-là, c'est qu'il faut qu'ils veillent à ce que le budget soit exécuté selon donc les différentes lignes et selon les orientations.
D'accord. Alors, oui, mais Fibin, c'est vrai que très récemment, ou même d'ailleurs dans ce mois, j'allais dire, il y a le budget, ce projet de budget, bien sûr, qui sera à l'Assemblée nationale et ce serait adopté à l'Assemblée nationale. Et quand on prend cette question alors de social, on dit mais écoutez, le budget est taxé alors sur le social, la sécurité, est-ce que vous voyez vraiment l'impact?
Bon, peut-être la sécurité, donc on fait des efforts, on est protégé. On salue tous les efforts que font les forces de défense et de sécurité pour nous assurer la sécurité. Mais quand on parle du social, depuis des années, on parle du social. Mais le pouvoir d'achat est toujours faible. Le pouvoir d'achat est toujours faible.
Il y avait même un mandat dit social.
C'est le mandat de 2015, je pense. Donc, on parle du social. Est-ce que véritablement, on suit l'impact? On voit des choses qui se font, mais c'est-à-dire, dans la masse, c'est un peu difficile. Vous savez, moi, j'ai jamais été impressionné par nos budgets. Jamais dépenser parce que ça ne peut pas nous permettre d'être compétitifs.
Qu'est-ce qui manque?
Non, attendez, il faut peut-être un budget de 5 000 milliards de francs CFA. Pour permettre aux Togolais d'avoir un pouvoir d'achat conséquent. Sinon, avec ça, on a un pouvoir d'achat très faible. Regardez, il faut que ceux qui nous comprennent, ceux qui nous suivent, comprennent que c'est un truc simple. Quand on parle du haut du budget, ça veut dire l'éducation va peut-être prendre, je ne dis n'importe quoi, peut-être l'éducation va prendre 20 000. Ça veut dire qu'il y a le salaire des enseignants dedans, il y a les besoins du corps des établissements, des infrastructures, la craie, tout ça là. Par exemple, si on envoie 20 000, on vous dit achetez tel nombre de paquets de craie, tout ça là. Ça veut dire vous allez au marché pour prendre ça, mais quand vous n'en prenez pas beaucoup, donc celui qui vend, il n'a pas une économie importante. Ça veut dire qu'on va juste être, toujours pauvre. Oui. Toujours pauvre. Parce que ce n'est pas grand, en fait. Ce n'est pas grand. Le pouvoir d'achat va être toujours faible. Le salaire des enseignants. Le salaire de nos fonctionnaires en général. Est-ce qu'avec ce salaire, on peut réaliser quelque chose? C'est ça le problème. Parce qu'il y a le salaire des fonctionnaires dedans. On parle pas de salaire, mais on parle de traitement.
On parle de traitement.
Est-ce que ça peut nous permettre d'avoir un pouvoir d'achat conséquent? Non! Non, les gens disent que oui, c'est parce qu'il n'y a pas assez de régie, il n'y a que la douane, il n'y a que les impôts. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut investir dans les grosses industries pour avoir de grosses boîtes. Quand on a de grosses boîtes, on a de grosses tasses. S'il n'y a pas de grosses boîtes, on va vivre avec de petites économies. Quand nous parlons par exemple d'inclusion financière, il y a un instant, on vous permet d'avoir 15 000, d'avoir peut-être 30 000, d'avoir... Oui, vous allez faire de petites affaires, mais vous n'allez jamais faire de grosses affaires. Alors, pour faire développer un pays, c'est de grosses affaires. Vous avez une grosse industrie qui puisse embaucher 1000 personnes, qui puisse embaucher 2000 personnes. J'ai suivi un reportage, on dit par exemple, c'était dans un pays européen, vous avez une boîte, on dit, il y a 30 000 personnes qui y travaillent tous les jours. Vous imaginez ça? Donc, il y a des boîtes comme ça, c'est ça qui permet d'avoir des pays développés. Alors, nous avons des ressources. Pour résoudre ce problème-là, moi, je pense que c'est simple. Même si les occidentaux ne veulent pas que nous y parvenions, nous avons des ressources. Il faut aller chercher de l'argent sur le plan international, de ce que Ouattara fait. Par exemple, Ouattara va, comme c'est un financier, il va sur le marché, il vient, il investit, et on a de gros travaux en Côte d'Ivoire.
On ne met pas un pays en prison.
On ne met pas. On a de gros travaux. Par exemple, on a le phosphate. Allez, cherchons de l'argent, investissons pour avoir peut-être des experts togolais. Parce que vous allez, vous prenez des experts étrangers, ils viennent, ils prennent les sous, ils rapatrient les sous, et maintenant on se retrouve à zéro. On se retrouve à zéro. Mais là, ce qu'il faut, il faut aller sur le marché, chercher de l'argent, on prend secteur par secteur. D'accord. Coton, par exemple, on a des experts. Togolais, par exemple, on peut embaucher peut-être 500 000 personnes. Faire la même chose, avec ça, on peut avoir de grosses industries pour pouvoir financer nos budgets. Si on avait ce budget-là, on va toujours demeurer à ce stade-là.
D'accord. Gabin, est-ce que vous aussi, vous n'êtes pas impressionné par notre budget?
Bon, côté chiffres, je peux dire qu'il y a du progrès. 15%
c'est déjà dans cette année 2024, oui, nous avons atteint les 2000 milliards.
2000 milliards. Donc, côté chiffres, on peut dire que bon, il y a du progrès, puisqu'il y a, il y a 15% de progrès qui a été fait. Mais sur l'impact au niveau de la population, oui, ça ne se ressent pas. C'est vrai qu'il y a entre-temps, parce que bon, le budget a été, la loi de finances avait été ratifiée de 2023-2024, avait été déjà fait avant que cette histoire de terrorisme n'arrive. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a peut-être changé de plan. Maintenant, je pense qu'il va falloir expliquer les choses à la population pour qu'on arrive à comprendre. Parce que j'ai aussi un problème, c'est que la plupart du temps, certes, on vote une loi de finances, mais après, on ne voit pas de loi de règlement. Parce que c'est ce qui explique à la population vraiment comment les fonds ont été gérés. Quand vous finissez une année civile, la moindre des choses, c'est de produire une loi de finance, une loi de règlement qui va expliquer les détails. Voilà, on a mis telle somme à la disposition pour faire telle chose. Et quand la population a en possession cette loi de règlement-là, elle arrive à avoir une certaine clarté par rapport à la situation. Mais quand on vote une loi de finance, la population a dit, bon, 2000 milliards. Encore que c'est une prévision. Les gens pensent que l'argent là est là comme ça. Non. L'argent n'est pas encore là. C'est une prévision. Compte tenu des besoins qu'on a, on se dit, bon, avec 2000 et quelques milliards, on pourrait arriver à résoudre ces problèmes-là. Donc, c'est une prévision que l'État a fait. Maintenant, dans la loi de finances aussi, il n'y a pas véritablement, on ne voit pas les apports des sociétés d'État. Vous voyez, par exemple, on ne voit pas le nom. La plupart du temps, on sait combien l'OTR a apporté. Mais pour les autres sociétés, on n'est pas au courant. SNPT, on n'est pas au courant. Les banques au Togo, on ne sait pas combien elles apportent. Le port, on ne sait pas combien elles apportent et tout. Donc, à un moment donné, ça frustre. Comme nous sommes dans une
nouvelle citoyen, république, on a le droit de
ça. On a le droit. C'est ce qui permet aux citoyens de se rendre compte que, bon, voilà, compte tenu de certaines exigences, l'État ne peut pas aller outre mesure. Parce que ça permet même à l'État de se dédouaner un peu. Vous voyez? Donc, si vous ne le faites pas, ça veut dire que vous avez des choses à cacher. Dans les normes, vous votez une loi de finances, après exécution, vous prenez une loi de règlement qui détermine comment les dépenses ont été faites et que dans la loi de finances, que les gens voient clairement les apports des différentes sociétés. Là, les gens seront situés si telle société a apporté. Parce qu'il y a des bruits qui circulent que il y a des sociétés qui promettent certes de l'argent, mais au finish, ne versent pas. Et l'ONATO, on sait combien la l'ONATO apporte.
On va pas citer.
L'OTR, on sait combien. Ce sont des sociétés d'État quand même. Donc, on sait combien ces sociétés-là apportent. Mais les autres, ils apportent quoi dans le budget national? D'accord. Donc, à un moment donné, je pense que il faut y penser. Hein, nous sommes dans une nouvelle république. On aspire à plus de transparence. Donc, faisons en sorte que, après ratification de la loi de finances, après exécution, qu'on ait une loi de règlement qui nous dise comment les fonds de l'État ont été gérés.
D'accord. Gabriel, on est en transition. Ce n'est pas la nouvelle République pour le moment. Alors, c'est vrai que cette loi de finances, enfin, le projet de loi de finances, exercice 2025, ira à l'Assemblée nationale. Et je parlais même d'ailleurs de cette Assemblée nationale en début d'émission où il y a les différentes commissions qui ont été mises en place. Je veux bien parler alors des 9 commissions qui ont été mises en place. On pourrait dire qu'avec ces commissions, ce serait pour un bon fonctionnement de l'Assemblée nationale.
Oui, je crois que les commissions sont ces structures-là qui facilitent le travail parlementaire parce que quand certains travaux arrivent, il faut passer par ces commissions-là qui étudient, qui font des propositions. Et après, au niveau de la plénière, donc, on peut adopter. Et c'est un travail préparatoire qui est fait pour faciliter le travail après en plénière avec tous les autres députés. Donc, avec la mise en place de ces commissions, avec la désignation de leurs membres et de leurs présidents, je crois qu'on a une assemblée qui a toutes les structures en place désormais donc, pour fonctionner normalement. Ça fait 9 commissions. Donc, au total, qui ont été mises en place, on ne peut que saluer donc cette avancée-là et souhaiter que toutes ces personnes-là qui ont la charge de gérer ces commissions-là soient vraiment à la hauteur. On a vu, quand on voit le profil de certains présidents qu'on connaît pour avoir géré un certain nombre de choses à l'échelle nationale, on se rend quand même compte que c'est du travail sérieux donc qui se fera. Espérons donc tout simplement que tout se passe bien, surtout comme je le disais. C'est une assemblée qui a plus de pouvoir que toutes les assemblées qu'on a eues jusqu'ici. Et donc, on espère vraiment que les députés mesurent l'ampleur de leurs responsabilités, l'espoir aussi des citoyens, que les citoyens placent en eux pour espérer pousser le gouvernement à faire son travail. Parce que il faut que ce député la veille au grain. À chaque fois, il faut qu'il surveille, qu'il demande des explications, qu'il sanctionne, si possible, parce qu'aujourd'hui, ils ont les moyens donc, de le faire. Donc, espérons que avec cette organisation qui est en train d'être mise en place, donc cette assemblée sera bien outillée, en tout cas sur le plan structurel. Et puis, il y a le Sénat aussi qui va être mis en place très prochainement avec l'élection. Donc, c'est la deuxième chambre du Parlement donc, qui va être mise en place. Et donc, après cela, je crois qu'on va se retrouver de plein pied dans le régime parlementaire avec ce Parlement à deux chambres. L'Assemblée nationale, le Sénat, qui fera son travail.
Ok, mais Firmin, c'est vrai que quand on suit les présidents, le nom des présidents des différentes commissions, on comprend tout simplement, quand on analyse, on voit que c'est seul M. Wonyara Kosimi, voilà, qui est de la DI, fait partie de l'opposition, bien sûr, qui occupe la tête alors d'une commission. Et les autres sont tous à l'ordre de l'UNI. Alors, est-ce que c'est surprenant?
Non, ce n'est nullement surprenant. On s'attendait à cela. Mais j'ai même dit que sous la 5e République, on aura les députés ou l'Assemblée aura plus de pouvoir. C'est vrai. Mais est-ce qu'on aura de bons députés? Est-ce que les députés seront efficaces? Parce que pour faire un régime parlementaire, il faut que des députés soient efficaces. Alors, pour permettre aux députés d'être efficaces, qu'est-ce qu'on fait souvent? Il faut qu'on permette à chaque député d'avoir des assistants parlementaires. C'est-à-dire, moi, par exemple, je suis ici, je deviens député, je ne connais rien à la politique, je ne connais rien par rapport au transport, je ne connais rien par rapport aux finances. Il faut qu'on me permette d'avoir, moi, 2-3 assistants parlementaires qui m'expliquent des choses. Et là, lorsqu'on m'expliquera des choses, je pourrai être à même de faire des propositions. Lorsque nous allons dans des débats. Et c'est là où nous pourrons régulièrement interpeller le gouvernement. Sur le numérique, par exemple, sur les transports, sur les finances, parce que j'ai des outils nécessaires. Mais si on a une assemblée qui ne comprend pas grand-chose sur le plan technique, on n'aura que des députés qui vont lever que le petit doigt. On aura des commissions comme cela, mais ce ne sont que des commissions de nom. Nous, on a une commission défense, commission finance, mais est-ce que ceux-là qui sont au niveau de la commission défense, bien sûr, ce ne sont pas des militaires, mais est-ce qu'ils ont peut-être des assistants parlementaires qui puissent leur expliquer la chose militaire, qui puissent leur faire l'état des lieux régulièrement par rapport aux attaques terroristes, par rapport à ce que les gens sont en train de parler, par rapport à comment le terrorisme évolue dans le monde. Et là, est-ce que ces députés vont aller sur les médias pour parler du terrorisme avec efficacité? Est-ce que la question au niveau des finances pourront venir aller sur les médias pour parler des finances avec efficacité et interpeller le président du conseil régulièrement? Donc c'est ça en fait. Est-ce que ces députés, regardez, il y a quelque chose d'extraordinaire aussi avec le régime parlementaire. Le président du conseil va être obligé d'aller chez les députés presque toutes les semaines.
Toutes les semaines.
Toutes les semaines. Mais si le président sait qu'en face, il n'a que des. Il n'y a rien. Mais il va les bluffer, il va venir faire son discours et puis partir. Les gens vont l'applaudir dès demain. Alors que, quand vous êtes des députés efficaces, très bons, vous allez interpeller le président du conseil. Peu importe qui il est le président, il a le fond d'assigné. Même monsieur le président du conseil. Il y a tel demain, peut-être, vous n'avez pas été à la hauteur. Parce que vous avez des outils nécessaires qui vous permettent de faire ces critiques-là. Mais si on a des députés comme ça qui ne sont pas bons, efficaces, moi je pense qu'on va avoir le régime parlementaire, bien sûr, mais ce ne sera pas trop bien efficace pour nous.
D'accord. Alors, Oumed Abbé, la question qu'évoque Firmin est fondamentale. En ce sens que quand on parle du régime parlementaire, alors c'est le député ou du moins c'est les parlementaires qui sont au centre
du pouvoir.
Du pouvoir, bien sûr. Et donc, ce qui veut dire qu'on a besoin vraiment des députés efficaces.
Oui, on a besoin des députés plus qu'efficaces. Parce que vous savez, aujourd'hui, le Parlement représente quand même le cœur du pouvoir. Donc, à un moment donné, il va falloir que les parlementaires sachent réellement la tâche qui leur est dévolue. À un moment donné, Moi, quand je suis l'actuel Parlement, quand je suis les interventions et surtout bon les discours du président de l'Assemblée nationale actuelle et tout, moi, je reste souvent sur ma faim parce que, vous savez, une Assemblée nationale, c'est pour le peuple. C'est pourquoi on dit tout mandat impératif est nul. Donc, quand tu sièges à l'Assemblée nationale, il n'y a pas question de coloration politique. Tu es là pour le peuple. Donc, à un moment donné, quand je vois déjà, ça fait déjà quelques mois que ces parlementaires-là sont là, mais il n'y a aucun parlementaire qui puisse lever la main pour dire que, bon, moi, j'ai un cabinet parlementaire. Il n'y en a pas. Au Parlement, on aborde toutes les questions. Tu peux être avocat, tu peux connaître bien la loi, mais il y a des questions sur lesquelles tu ne peux pas intervenir. Par exemple, les questions de finances, les questions de défense. Et tu as besoin des gens à ta disposition qui pourront t'informer, qui vont te dire ce qu'il faut aller dire, les besoins de la population à ce niveau-là. Mais si tu ne t'entoures pas de cette personne-là, ben, tu vas aller au Parlement, tu vas juste lever le petit doigt. Quand le moment va venir de dire, bon, voter, tu vas lever le petit doigt sans rien comprendre. Et là, tu marches contre le peuple. À un moment donné, je me demande si on est véritablement prêt pour ce régime parlementaire. C'est des interrogations parce que je me dis, les gens sont au Parlement aujourd'hui, peut-être qu'ils se disent, moi je suis unir et tout, bon je suis adi et tout ça, bon, et ils siègent au nom de leur parti politique. Ils ne se disent pas, je siège au nom de la population togolaise et tout ce que je dois faire, ça doit aller dans le sens de la population togolaise. On l'a vu en France. Il y a des gens qui sont du RN, qui sont des LFI. Ben, les votes ne sont pas allés dans un sens donné. Ça veut dire que chacun veut quelque chose pour sa population et ils agissent au nom au nom de la population. Mais chez nous ici, est-ce que c'est le cas? Donc, à un moment donné, je pense que les députés doivent réfléchir, s'entourer de bonnes personnes, créer des cabinets parlementaires, là où on les a élus, par exemple, peut-être M. Ognolan, là où on l'a élu dans là-bas, ben, il peut créer un cabinet parlementaire, s'entourer des gens. Et ces personnes-là vont lui apporter à chaque moment, c'est un exemple que je prends, hein, vont lui apporter des éléments à chaque moment. Et c'est que dans nos États aussi, les gens n'aiment pas dépenser. Quand tu es politique, il faut dépenser pour avoir les informations, pour avoir les bons conseils. C'est ce qu'il faut. Mais si tu es politique, juste tu vas siéger à l'Assemblée nationale parce que tu te dis honorable, honorable, je suis honorable, ça ne veut absolument rien dire. D'accord. Tu es honorable, mais qu'est-ce que tu apportes quoi à la population? Donc, je pense que les députés actuellement, ils savent réellement la tâche qui leur est dévolue et on les attend au tournant.
D'accord, on les attend au tournant.
Si vous permettez.
Il faut faire le tour. Alors, c'est vrai que je voudrais qu'on quitte le sujet, hein, qu'on s'intéresse plus à l'international, qu'on parle un peu de la France. La France avec ses difficultés politiques ces derniers temps. Hier même, on a vu la démission, même d'ailleurs, du Premier ministre, hein, et également avec le discours d'Emmanuel Macron, on a suivi également cela. Et dans ce discours, Emmanuel Macron, le président Emmanuel Macron, signifiait quand même que, avec cette difficulté aujourd'hui de la politique française, qu'il en est pour rien.
Bon, c'est assez compliqué ce qui se passe avec Macron, la députée, le Premier ministre Barnier qui vient de jeter le punch. C'est assez compliqué. Je crois que depuis De Gaulle, ça n'est jamais arrivé. Donc, ça reste une situation inédite. Et tout est parti donc de cette volonté d'un président de dissoudre l'Assemblée, alors qu'il n'était pas certain d'avoir la majorité à l'issue du scrutin. On a vu la même chose au Sénégal, où le duo Diomaye Faye et Sonko.
Mais là, ça a marché.
On réussit le pari.
Tout à fait.
Alors, on se demandait est-ce que ça allait marcher, mais finalement, ça a marché. Mais en France, ça a créé finalement une situation très compliquée avec un président qui n'a pas envie aussi de prendre totalement ses responsabilités parce qu'il aurait pu bien nommer un premier ministre dans une majorité circonstancielle qui s'était formée, mais il a fait la sourde oreille. Il a exploité les dispositions constitutionnelles à sa manière et à sa guise. Et donc, ça reste quand même un mandat très difficile pour lui. Où il évite une cohabitation, mais je crois qu'il ne s'en sortira pas. Parce que il y a deux blocs, l'extrême droite et la gauche, aussi, qui ne lui facilitent pas le travail. Et donc, je ne sais pas comment il va s'arranger avec le prochain premier ministre, si ce n'est qu'exacerber donc les Français qui se retrouvent pas, qui sont obligés de rentrer dans une nouvelle année sans le budget 2025.
Justement.
Et donc ça va être compliqué. Mais en même temps, on apprend aussi, et on se rend compte aussi que ces démocraties-là ne sont pas aussi assises qu'on l'imaginait, et que ces mécanismes qu'on copie souvent ne sont pas aussi efficaces aussi qu'on peut le croire dans la gestion d'un pays. C'est ce à quoi donc on assiste aujourd'hui du côté de la France. Donc on espère que ça va aller.
D'accord. Alors Fébin, est-ce que déjà au vu et à l'analyse même d'ailleurs de ces faits politiques en France, est-ce que on ne dira pas que la démocratie est en train alors de nous montrer ses faiblesses?
Non, moi je ne vois pas ça comme ça. Je ne vois pas que c'est comme ça. Le problème de la France, c'est Macron. Vous savez, moi, je n'ai jamais été pour qu'on confie le pouvoir politique à un jeune. C'est ça, c'est cela en train de monter ses limites. Vous avez Emmanuel Macron, à 34 ans déjà, qui était devenu multimilliardaire. Il avait l'argent, il avait juste besoin de pouvoir politique. Il est rentré dans un monde qu'il ne maîtrisait pratiquement pas. Il est devenu, par la force des lobbies, un chef d'État de la cinquième puissance du monde, la deuxième puissance d'Europe. Et regardez comment il a été élu. C'est parce qu'on a fait des choses, on a truqué des choses, et il est devenu président. Il a fait face à qui? Premier mandat, Marine Le Pen, qui s'embrouillait dans les papiers. Macron ne pourrait jamais s'en sortir face à un certain Alain Juppé, ou à un François Fillon, ou au moment où ça a été Bayrou. Il pourrait pas, impossible. Deuxième mandat, la dame qui s'embrouille encore dans les papiers. Donc Macron, la voie lui a été tracée. Mais il est venu, il s'en prend tout le monde, il comprend rien, de la politique interne. Il est venu, il a cassé la gauche, il a cassé la droite. Avant, les Français avaient, sous la 5e République, on a tout fait pour construire un bipartisme. Il y a la droite, quand la droite part, la gauche vient. Quand la gauche part, la droite vient. Maintenant, lui, il est venu, il a tout bousillé. Et maintenant, regardez ce qu'on est en train d'avoir à l'Assemblée. C'est comme avant 1958. Or, c'est ce que le général de Gaulle avait évité. Quand vous lisez la Constitution de 1946, qui est celle de la 4e République, et la 5e République, de 1946 à 1958, il y avait plus de 21 gouvernements qui s'étaient succédés. Parce qu'il y avait ce problème-là que nous avons aujourd'hui. Il y a tout de partis, tout de coalitions. Extrême droite, NFI, Renaissance, extrême gauche, LFI. Il y a tout. Donc c'est comme un système parlementaire qui est en train de revenir. C'est ce que le général de Gaulle a évité. Il a dit, on va à une 5e République pour permettre d'avoir un bipartisme. Maintenant, Macron, il revient avec ses erreurs politiques, ses égarements. Il est en train de revenir au régime parlementaire qu'il n'arrive même pas à maîtriser. Vous allez à une élection, aux élections législatives, vous ne pouvez même pas avoir un premier ministre tout de suite. Vous allez être obligé d'arriver, de faire une coalition. Ce qui était possible au 26e siècle, avant 1958. Donc aujourd'hui, Macron, il a bousillé la politique interne, il a bousillé aussi la politique internationale. Moi, je ne vois pas pourquoi les Africains s'en prennent à lui. Parce qu'en réalité, c'est lui qui a aidé les Africains. Et tout le monde l'embête. Le Tchadien peut l'embêter facilement, dire non, je romps avec la France. Dumaï Faye, 44 ans, peut dire, je ne veux plus de la France. Vous voyez, par exemple, le Burkina Faso, 34 ans, dit, je ne veux plus de la France.
Mais est-ce que ce n'est pas la souveraineté qui s'exprime?
Non, ce n'est pas la souveraineté. Non, c'est pas. Vous savez, on serait devant face à un De Gaulle ou à un Mitterrand. On ne se comporterait jamais comme ça. Il suffit juste qu'on aille devant la boule pour prononcer un discours pour les Africains. Okay. Tu serais calmé.
Ok, oui, Gabin. Est-ce que c'est Emmanuel Macron le problème de la France?
Non, c'est pas que le problème. Le problème de la France aujourd'hui, ce sont les citoyens français qui n'ont pas su voir au-delà de la personne de Emmanuel Macron. Parce que Emmanuel Macron, il est en train de conduire son dernier mandat. Et ils doivent savoir que la France n'est pas dirigée par qu'Emmanuel Macron. Il y a des gens. Et quand vous prenez un premier ministre comme Michel Barnier, quand il était venu, les gens connaissent la compétence de Michel Barnier. Mais il était obligé, pour faire passer la loi de finances, d'utiliser le 49-3. Aujourd'hui, les Français, les députés français ne sont plus quand même à ce niveau-là d'accepter encore le 49-3 qui a été déjà utilisé par Emmanuel Macron. Donc aujourd'hui, la meilleure des choses, Emmanuel Macron, il croyait voulant organiser une nouvelle élection, que bon, les Français vont lui accorder quand même cette possibilité-là d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale afin de conduire son dernier mandat. Mais les Français, ils voyaient juste la personne d'Emmanuel Macron. Ils n'ont pas vu au-delà de la personne d'Emmanuel Macron, ce qui fait que ils ont beaucoup plus voté contre Emmanuel Macron que pour la République. Donc ça pose problème. Aujourd'hui à l'Assemblée nationale, les fronts là, ce sont des gens qui se sont érigés. Ils ne veulent rien entendre. Pour eux, tout ce que Emmanuel Macron va proposer, ça ne passera pas.
Et il rend de la vie difficile à Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron et aussi à la France, parce qu'aujourd'hui, la France va rentrer en 2025 sans budget, hein, sans loi de finances, sans voter la loi de finances. Donc, ça pose problème. Et aujourd'hui, bon, ils disent que bon, peut-être d'ici demain, on aura peut-être une dame hein, comme Premier ministre. On ne sait jamais. Donc, on verra si peut-être il y aura une certaine facilité pour cette dame-là de conduire la politique d'Emmanuel Macron. Sinon, ça va être les dernières années les plus difficiles depuis plus de 68 ans pour la France sous un régime.
Ok, chers confrères, merci. Nous allons en arrêter là pour ce qui concerne le débat, puisque notre temps est avancé. Nous allons donner la parole à nos auditeurs qui s'impatientent à rentrer aussi en ligne pour s'exprimer sur les sujets débattus ici au Club de la Presse. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs. 93.5. Sommes de retour dans cette émission. Vous comprenez que nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 115 et aussi nous écrire au 90 45 78 57. Premier auditeur. Allô.
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va?
C'est Didier.
Ouais, c'est Didier.
J'espère que vous allez bien.
Oui, je vais bien, je vais bien. Monsieur Pouli, ça va? Monsieur Fina, ça va bien? Monsieur Gabin aussi, je vous dis bonjour. Bonjour. Moi, j'ai écouté attentivement l'émission, surtout la partie du bon citoyen, qui est un modèle. J'ai écouté très attentivement, mais sans m'appliquer un peu. C'est que dans notre pays, là, une fois, nous, il est difficile de former un modèle parce que nous avons de contradiction en contradiction. Tout à l'heure, vous avez posé la question, M. Fumet, lorsqu'il disait que le fait d'aller noircir son pays à l'extérieur, c'est pas un bon citoyen. Est-ce que le fait d'aller dire, hein, la réalité de ce qui se passe dans notre pays à l'extérieur, est-ce un bon citoyen ou bien mauvais citoyen? Ma question, même, vient à M. Pouli et M. Fumet. Les auteurs de la forfaiture à la mode du président a demandé, ce qui s'est passé, les auteurs de cette forfaiture-là, nous devons les considérer comme des bons modèles, les aduler, ou bien comment est-ce qu'on doit les considérer? Merci.
Merci beaucoup, Didier, pour votre intervention. 90, 86, 35, 35, 91, 35, 63, 315. Allô? Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Décidément, il n'est plus en ligne. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, le plateau.
C'est Arma.
C'est Arma, oui.
Allez-y.
D'abord, pour dire que le modèle, comme vous l'avez bien si dit dans votre discussion, un modèle doit se baser sur des principes. Ce n'est pas une histoire d'aimer ou de ne pas aimer, mais c'est une histoire de principes. D'abord, on dit chez nous qu'on ne monte pas de la main gauche sa maison. Pourquoi nos grands-parents l'avaient institué? Cela ne veut pas dire que nos parents la famille était exemplaire ou autre, mais ça ne se fait pas, c'est tout. Il faut comprendre cela. Et celui qui le fait, bon, on ne peut pas le prendre comme un modèle. Aussi, j'aimerais un peu parler de la France, bien que je ne sois pas français, mais il faut dire vraiment que Macron est vraiment déçu. En tout temps, certains avaient pensé que le monsieur avait appris quelque chose par sa réélection, qui était comme ci, comme ça, mais ce n'est pas vraiment... Mais bon, c'est une bonne chose pour nous les panafricains, parce que Macron nous permet de nous libérer. Merci.
Merci Armand pour votre intervention. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 315. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va très bien.
C'est Monsieur Gado.
Oui, lui-même.
Allez-y.
Vous savez, aujourd'hui, je suis d'accord avec M. Firmin. Vous savez, Macron nous a aidé beaucoup. Hein. Moi, je ne l'aime pas, mais il nous a aidé beaucoup. Je voudrais même qu'il fasse un troisième mandat. Parce qu'il y a encore beaucoup de retard après sortir de ses poumons pour nous réveiller. c'est Macron qui a occasionné la création d'état, des États Sahel. Donc c'est une bonne chose. Donc moi je voudrais que Macron reste au pouvoir pour faire sortir tout cet arbre dans ses poumons. Merci, bonne journée.
Merci, bonne journée à vous aussi pour votre intervention. Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur Mauto.
Salut le plateau.
Salut, j'espère que vous allez bien.
Ça va.
Allez-y.
C'est un modèle. Le thème, ça m'a beaucoup intéressé. D'emblée, je voulais poser la question à monsieur Sylvain. Il a dit que tout citoyen qui ne respecte pas la loi de son pays n'est pas un citoyen modèle. Au Togo, les lois sont à géométrie variable. La preuve, la République n'a pas été respectée lors de l'élection passée. Est-ce que les autorités togolaises sont des citoyens modèles? Nous avons vu dans les vidéos les autorités qui ont bourré les yeux dans les vidéos. Ça, là, c'est un comportement citoyen modèle de cette préoccupation. Il a dit que d'adapter les conditions à notre réalité. La phrase, moi, je ne la partage pas. Je voulais dire aujourd'hui qui me donne la réalité togolaise. Ce qui fait qu'on doit adapter notre réalité à notre constitution. Je veux savoir la réalité togolaise aujourd'hui. Merci et bonne émission.
D'accord, merci pour votre intervention, monsieur Mauto. Quoi qu'on dise, enfin, c'est les propos également d'un auditeur, quoi qu'on dise, la citoyenneté va du sommet à la solidarité communautaire, va également alors du sommet à la base. Et quelle nation voulons-nous construire? Quelle société voulons-nous construire si le Togolais d'hier était plus civique que celui d'aujourd'hui? Ce que les gouvernants d'hier, c'est que les gouvernants d'hier avaient un sens élevé de l'État, de la nation et du citoyen. Ah, allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Comment vous allez?
Je vais bien, chef.
C'est monsieur Nyamavo.
Nyamavo.
Allez-y.
Oui, je ne veux pas jouer la part du penseur de l'humain. C'est vrai, on doit souhaiter être des citoyens modèles. Le souhait de l'humain, pas même jusqu'à l'État. Mais, comme on est dans un pays où avant de parler pour contrôler sa langue, je crois que c'est l'Afrique qui est en train de faire. Sinon, les citoyens modèles qui ont frappé les Ajamagou devant la gendarmerie, la gendarmerie est modèle, par exemple. Donc, c'est un cas général. Nous tous, on doit être des citoyens modèles. Je crois que c'est ce que je me souhaite. Et par rapport à Macron, je dirais en, pour une seule phrase seulement que c'est spirituel. Et vous allez voir comment le Tchad même a osé dire à la France passée. Ouais, c'est spirituel. Et c'est comme ça, les dictateurs là vont quitter peu à peu le pouvoir. Hein? Ça va nous aider à balayer les dictateurs. Tôt ou tard, qui allait dire à la France qu'au Sénégal aujourd'hui, on va introduire dans l'éducation les massacres des tirailleurs sénégalais. Qui on dirait rêver, quelle que soit l'année, ça peut prendre des siècles, le peuple va retrouver son souffle. On peut mourir, nos enfants vont mieux vivre. Il y a de l'avenir.
D'accord. Bonne émission. Merci beaucoup. Monsieur Nyamavo, merci pour votre
bonjour,
intervention.
Bonjour,
oui, bonjour, Basile.
Oui, comment vous allez?
Ça va, chez vous?
Non, mais c'est pour les humains, comme d'habitude.
D'accord, allez-y.
Bon, pour dire que nos réalités dont les gens parlent tant, on ne sait pas de quelle réalité pour qu'on soit toujours dans la souffrance pendant 60 ans. Moi, j'aimerais, on a fait un exercice ce matin sur pyramide où, qu'est-ce que chacun dit. On m'a dit que, comme je suis contre les journalistes là, ma vie est en danger. C'est un certain Serge qui a dit ça. Bon, au fait, moi je veux les journalistes là, ils n'ont qu'à venir me tuer ce boy-ci.
Et Basile,
oui.
On a parlé des sujets, j'aimerais que vous vous intéressiez aux sujets débattus ici au Club de la Presse.
Oui, je vous donne une information.
Non mais moi je suis, nous animons une émission, nous animons une émission, nous voudrons quand même que vous vous intéressiez aux sujets.
Oui, je vais m'intéresser aux sujets.
Mais faites-le, parce que nous n'avons pas assez de temps.
Allô?
Faites-le rapidement, nous n'avons pas assez de temps.
Ah, ok. Vous dites que nos réalités dont ils parlent chaque fois, c'est pour que nous on souffre toujours. Quand ils disent réalité, c'est pour que le Togolais souffre. Firmez ces consoles-là. Ils n'ont qu'à savoir que réalité dont ils parlent là, c'est pour que le Togolais souffre toujours.
D'accord, merci. Bonne journée à vous, Monsieur Basile. Je pense que nous allons recevoir notre dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission.
Allô?
Allô, bonjour. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour. Comment vous allez?
Allô?
Décidément.
Bonjour.
Oui, comment vous allez?
Ça va bien. C'est Didier qui revient, c'est Didier qui revient.
Ah, Didier, oui.
Je voulais bien préciser ma question, monsieur, je ne sais pas si vous en compris. Je vais poser la question de savoir quels auteurs du coup d'État, la mondiale, demandent de les considérer comme des modèles, des titulaires mondiaux ou comment les autres doivent les considérer.
D'accord, ok, merci.
Je vais pacifier la question, quoi.
D'accord, ok, merci, Didier, pour votre intervention. Nous allons arrêter la manifestation, enfin surtout la réaction des auditeurs sur Didier, qui est le dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission. Il était le premier et il est aussi le dernier. Alors, chers confrères, nous revenons en studio pour faire un dernier tour de table et clôturer l'émission. Germain, vous avez écouté les uns et les autres, et si vous avez une réaction?
Non, il n'y a pas de réaction particulière. Moi, le constat est clair, c'est que un peu dans tous les pays, les citoyens ne sont plus ce qu'ils devaient être. C'est une évolution du monde. Et comme je l'ai dit, nous avons beaucoup copié de l'Occident et on a beaucoup oublié nos propres valeurs. Maintenant, c'est pas seulement le rôle de l'État, c'est aussi le rôle des médias. C'est le rôle des associations, c'est pas seulement aussi le rôle des parents, mais que chacun prenne ses responsabilités et qu'on réfléchisse à un modèle qui est le nôtre. Parce qu'on a essayé beaucoup de choses aujourd'hui, on essaie globalement de trouver des solutions africaines aux problèmes africains. J'aurais souhaité que les intellectuels arrêtent de réfléchir sous le prisme de l'Occident. Nos intellectuels réfléchissent parce qu'ils ont été formés par l'Occident et donc ils réfléchissent souvent à travers ce prisme-là et ça fait que aujourd'hui, dans nos familles, on se soucie beaucoup plus de ce que disent les intellectuels. On pense que c'est eux qui ont raison et les sages n'ont plus voix au chapitre et ça fait que finalement, on ne se retrouve plus, on ne sait plus qui nous sommes. Nous ne sommes pas des Occidentaux, on veut tout faire comme eux. Nous ne sommes plus des Africains parce qu'on n'a plus rien gardé de nos ancêtres. Et ça devient très difficile. Je pense qu'il faut que des personnes peut-être s'organisent autrement à tous les niveaux pour relancer le débat et essayer de nous retrouver, hein, de faire un peu comme les Chinois qui ont tout appris mais qui restent quand même des Chinois, qui ont gardé l'essentiel de leur culture, de leurs valeurs. Tout en prenant ailleurs ce qui est bon pour eux. Et aujourd'hui, c'est pas surprenant que ce soit la nation la plus forte économiquement et socialement.
D'accord.
Donc, c'est un bel exemple à suivre.
Merci beaucoup, Germain. Oui, Firmin.
Oui, non, moi, je voudrais juste que nous élargissions le champ de réflexion. Parce que, c'est-à-dire, moi, j'ai compris que nous sommes toujours restés dans l'esprit des années 90, avec la même aigreur, les mêmes frustrations. Nous, au niveau de notre centre, on essaie de disséquer les anciens principes qui nous ont été enseignés. Par exemple, quand on voit, nous parlons toujours de personnes, c'est que c'est la Constitution qui fait toujours le débat. Quand on voit un peu la Constitution française, que les gens voudraient qu'on ramène, c'est-à-dire, c'est la 4e République, même les Français, les grands politiciens français n'arrivent toujours pas à s'en sortir. Il y a juste un documentaire l'autre fois où Hervé Juppé disait qu'en réalité, mais le général de Gaulle a fait une Constitution, il a taillé une Constitution à sa mesure, c'est pour cela qu'on ne s'en sort toujours pas. Quand on voit par exemple, c'était Roland Dumas qui dit qu'en réalité, il y a des gens qui étaient pour le second présidentiel, d'autres parlementaires, que c'est une constitution bizarre. Et maintenant, ils sont allés même jusqu'à se prononcer sur le référendum. Et Sarkozy disait ceci. Il dit, comment on peut soumettre un test de 150 articles à un peuple par référendum? Que le peuple n'aura pas toute la maturité pour pouvoir l'apprécier. Que c'est peut-être une question par oui, par non. Voulez-vous adhérer à une telle organisation? Ça, les gens peuvent facilement comprendre l'enjeu. Mais ça, par exemple, ça veut dire qu'arrêtez. Ceux qui nous ont enseigné le référendum, par exemple, sont en train de réfléchir là-dessus. Même Hollande s'est prononcé là-dessus. Juste dire qu'en réalité, on nous a servi, comme jamais pour la dictature, on nous a servi des choses, des principes depuis notre enfance. Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on aille au-delà, qu'on réfléchisse, qu'on dise qu'on se rende compte, qu'on se dise est-ce que on peut toujours continuer avec le même principe ou il faut qu'on réfléchisse à un moment d'une manière ou d'une autre. Donc les gens sont toujours dans l'esprit des années 90, mais nous on n'est pas politiciens, on ne le sera jamais peut-être, mais on essaiera toujours d'apporter une réflexion.
D'accord.
Juste dire qu'en réalité, que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide à être des citoyens modernes.
D'accord, merci Firmin. Oui, Gabin.
Oui, bon, c'est vrai, on a parlé de plusieurs sujets, hein, mais ce qui me tient beaucoup plus à cœur, c'est la loi de finances. Que le gouvernement trouve quand même les moyens de subventionner les produits de première nécessité, c'est ça ma demande à l'endroit du gouvernement. Et côté civilité, bon, que chacun essaie quand même de jouer son rôle, hein, à son niveau, surtout qu'on éduque bien nos enfants, qu'on soit des modèles premièrement dans nos familles et ensuite dans nos communautés. Je pense que la société se portera mieux.
La société se portera mieux. Merci beaucoup Gabin Adiaro d'être passé dans cette émission. Merci. Affirmé Teko Agbo, d'être passé aussi dans cette émission. Germain Pouli, merci à toi d'être passé dans cette émission. Ça fait toujours plaisir d'être avec vous, hein, pour animer cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis, puisque nous sommes à la fin de cette émission. Vous qui nous avez appelés aussi, merci à vous. Michel Kokou, Vito Betomega a assuré la mise en onde. La mise en ligne a été assurée par Jérôme Dakoucha. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve lundi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien et passez un bon week-end. Au revoir.